Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute. Qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui. J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission de 30 minutes sur le cinéma avec le plus souvent possible eh bien, des jeux. Et ce jeu, c'est le blind test sonore. Nous allons jouer avec la filmographie de Léos Carax. Pourquoi jouer avec la filmographie de Léos Carax? Eh bien parce qu'il a sorti un film lors du Festival de Cannes, Sophia.
C'est juste, il a sorti un moyen-métrage intitulé « C'est pas moi » dont je vous parlerai dans un instant.
Et puis tu as vu un autre film aussi projeté à Cannes.
Maria. De Jessica Palud avec un sujet un petit peu plus dense.
Et oui. Et puis toi aussi, c'est un film qui était projeté à Cannes et qui ensuite a atterri sur une plateforme qui est Disney+, Guillaume.
C'est ça, c'était partie de la sélection de Cannes Classics. C'est Jim Henson, Idea Man de Ron Howard, mais chez nous, c'est Jim Henson, l'homme aux mille idées.
Qui est un marionnettiste, hein, il faut quand même le préciser.
Le papa des Muppets.
Et puis quant à moi, eh bien, je ne vous parlerai pas de marionnettes, mais d'un film d'animation très attendu. Il cartonne aux États-Unis, paraît-il qu'il aurait dépassé Barbie lors du premier week-end dans les salles. C'est Vice Versa 2 des studios Pixar, mais nous allons commencer avec le portrait de Maria Schneider, comédienne brisée d'Un dernier tango à Paris.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique. Cinérama.
Je voudrais être actrice.
Vous vous appelez comment?
Maria. Maria Schneider.
Le film de Jessica Palud, son second long métrage, est inspiré de l'œuvre biographique de Vanessa Schneider, donc la cousine de Maria Schneider, l'actrice qui avait tourné dans Le Dernier Tango à Paris aux côtés de Marlon Brando en 1972. Film cul comme culte du renommé metteur en scène et réalisateur italien Bernardo Bertolucci. Vanessa Schneider s'adressait à sa cousine Maria en ces termes dans son ouvrage « Tu t'appelais Maria Schneider ». Tu avais quitté ta mère à 15 ans pour venir vivre chez mes parents. Ce tango marquait le début d'une grande carrière, voulais-tu croire. Il fut le linceul de tes rêves. Tu n'étais préparé à rien, ni à la gloire, ni au scandale. Tu as continué à tourner, mais la douleur s'est installée. C'est exactement ce que narre le film de Jessica Palud. Un film présenté à Cannes, qui, comme bien d'autres cette année, hein, le deuxième acte de Dupieux, Marcello Mio de Christophe Honoré, parle de cinéma et de ses coulisses. Ici, dans Maria, c'est l'ascension vers le succès hein, de cette actrice qui, avec le film de Bertolucci a été propulsé sous les feux des projecteurs de manière fulgurante, se taillant une réputation aussi sulfureuse que le film pour lequel elle a joué. Par rapport au livre de Vanessa Schneider, hein, le point de vue du film est déplacé, c'est véritablement celui de Maria qui est au centre, ce qui nous positionne par conséquent en tant que spectateur en témoins intimes et frontaux de ce qu'elle va vivre. L'actrice Anna Maria Bartolomei qui incarne Maria Schneider est saisissante de beauté, de force et elle est véritablement de tous les plans, ce qui participe à concentrer l'attention sur son personnage. On l'avait vu, hein, cette actrice, il y a peu dans L'Empire de Bruno Dumont ou encore en 2021 dans le rôle principal de L'Événement d'Audrey Diwan. Elle confirme d'autant plus son talent dans ce film avec une interprétation puissante et magnétique, semblable à celle de Maria Schneider.
Vous avez quel âge, Maria?
19.
Vous seriez la deuxième tête d'affiche. Et puis Marlon Brando m'a dit oui.
Brando? Mmh.
Bernardo, Monsieur Bertolucci.
Il y a une scène très crue dont tout le monde parle. Vous êtes allé loin? Comment vous avez fait pour l'aborder?
Est-ce par surprise?
On s'en fout de la vérité de ce qu'on te demande, c'est de faire ton boulot d'actrice et rien d'autre.
Pour ce qui est de la mise en scène, hein, dans Maria, la structure du film est faite d'ellipses pour pouvoir s'intéresser aux différentes périodes phares de la vie de l'actrice Maria Schneider. Dans un premier temps, l'ascension, donc l'actrice renoue avec son père, qui n'est autre que l'acteur Daniel Gélin, incarné par Yvan Attal dans le film. Elle se fait peu à peu introduire au gratin du milieu cinéma parisien, puis vient la rencontre avec Bertolucci, hein, une aubaine pour une jeune première, partager l'affiche avec Marlon Brando. Le film, bien qu'il s'inspire librement hein, du livre de Vanessa Schneider et de la vie de son actrice de cousine Maria, est quand même très documenté et il s'attarde ainsi longuement sur le tournage du dernier tango à Paris. Il y a de très belles scènes d'échange entre les acteurs Maria et Marlon, hein, Matt Dillon dans le film, où on voit complicité, admiration, douceur et bienveillance. Puis vient le drame, la séquence improvisée de la motte de beurre, une séquence d'agression sexuelle, de viol, sous couvert d'intensité passionnelle amoureuse pour le réalisateur. Une scène problématique à deux égards, hein, dans ce qu'elle représente de violence conjugale évidemment, mais aussi de violence à l'égard des actrices, car voilà, une riche occasion de s'intéresser au parafilmique, la scène en question ne faisait pas partie du scénario pour lequel Maria Schneider s'était engagée. En 2013, le réalisateur Bernardo Bertolucci s'était lui-même exprimé à ce sujet pour la première fois, donc bon, plus de 30 ans après le tournage, expliquant que ce fameux remaniement de script était une idée qu'il avait eue avec Marlon Brando le matin même. Il avait reconnu, je cite, « J'ai été horrible parce que je n'ai pas prévenu Maria de ce qu'il attendait », mais admettait tout de même ne pas avoir de regrets et a botté en touche lors du mouvement MeToo en 2016. Maria Schneider, quant à elle, a pris la parole très vite après la sortie du film. En fait, elle est l'une des premières actrices à avoir parlé, à avoir dénoncé les abus dans le métier, déjà d'emblée dans les interviews accordées aux journalistes pour la promo du film, mais aussi dans le documentaire de Delphine Seyrig, « Sois belle et tais-toi », tourné en 76 et sorti au début des années 80. Sa parole trouvait ainsi des échos chez les 23 autres actrices qui témoignaient à ses côtés de leur expérience personnelle, en faisant un bilan collectif très négatif d'une profession qui n'offrait que des rôles stéréotypés et aliénants et des rapports très complexe avec équipe de tournage, metteur en scène et réalisateur, en écrasante majorité masculin. Une parole précoce à une époque qui n'entendait pas, car souvent discréditée sous l'écrasante emprise hégémonique des artistes tout-puissants.
Vous êtes une honte pour les femmes, mademoiselle.
Vous entendez, me regardez pas !
Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voulais être actrice, tu voulais être connue.
Pas comme ça. M'habiller, je n'intéresse personne. Accroche-toi.
Coupez.
Ainsi, le film bascule suite à cette sodomie forcée qui est très difficile à regarder puisqu'elle cadre en gros plan sur le visage de l'actrice abusée et humiliée, sur ses larmes authentiques, celles que Bertolucci cherchait à tout prix, l'accident improvisé qui permet que l'émotion brute puisse surgir. Scène qui, au-delà de son caractère insupportable, offre peut-être le seul moment intéressant d'un point de vue formel du film, lorsque la caméra panote, après d'interminables minutes, je le répète, sur Maria plaquée au sol dans la souffrance, et nous donne à voir donc son point de vue. Les membres de l'équipe du tournage qui la scrutent, la regardent et laissent donc aussi attentivement que passivement le mal être fait. La seconde partie du film nous emmène alors dans les conséquences de cette trahison traumatique, la dépression, la descente aux enfers, la colère et la drogue. En mai dernier, une commission d'enquête sur les violences sexuelles au cinéma et dans le milieu de l'audiovisuel et du spectacle vivant était créée à l'Assemblée nationale, initiée par Judith Godrèche, qui présentait aussi à Cannes cette année un court-métrage intitulé « Moi aussi », en référence évidemment au mouvement MeToo. Une commission parlementaire qui avait pour but de continuer à libérer la parole des victimes et politiser une problématique qui ne relève pas que de l'intime, mais d'une misogynie systémique. En dissolvant l'Assemblée nationale le dimanche 9 juin dernier, le travail de cette commission a été interrompu. Il est donc particulièrement important de considérer d'aller voter aux législatives pour des députés qui auront véritablement à cœur les droits des femmes et la volonté de rouvrir les dossiers courants de ce type.
Et pour faire un lien assez amusant avec ta chronique, et donc plus léger aussi, entre ta chronique et la mienne qui parle de Jim Henson et des marionnettes, sachez que dans le second film de Peter Jackson qui s'appelle Les Feebles, il y a une scène hallucinante où une marionnette donc de renard chante une chanson qui s'appelle Sodomie. Donc voilà, film de marionnettes pour adultes, je précise.
Et donc tu précises plus léger aussi.
Plus léger
effectivement.
Aussi.
Nous parlions donc de Maria qui est en salle depuis le 19 juin. Le 1 était une merveille, le 2 s'en approche. Manque peut-être la surprise, nous parlons maintenant de Vice Versa 2.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Ici Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Faites du bruit pour notre champion.
Hourra.
Tristesse est dans la place.
Voici colère.
Je vais me les faire. Pour la dernière fois, j'exige notre protège-toi.
Peur. Non, recrachez pas nous.
Dégoût. Heureusement qu'on t'a dans l'équipe.
Notre petite Riley grandit tellement vite.
Pour certains, Pixar n'a rien produit d'intéressant depuis Coco en 2017, mettant une gifle à Élémentaire qui fut pourtant un film d'animation bien mené autour des quatre éléments. Et sous le diktat de Disney, la maison mère qui vise le profit plus que la qualité, eh bien, le studio qu'elle a englouti s'est résolu à sortir un deuxième opus de Vice Versa. Il y a bien quand même derrière ça bien une certaine paresse, parce que voilà, mais cependant, qui va se plaindre d'avoir eu deux aliens après le premier ? personne ici dans ce studio, j'imagine. Donc fidèle à ce qu'on attend d'une suite, Vice Versa nous place immédiatement dans un univers donc qu'on connaît, celui de Riley et de ce qui se passe dans sa tête où les émotions, joie, tristesse, colère, peur et dégoût sont à la manœuvre pour l'aider à s'accomplir. Dans le premier volet de l'histoire, Riley avait 11 ans, puis 12 à la fin et avait déménagé à San Francisco. L'épreuve passée, la voilà âgée de 13 ans et inscrite à un stage de hockey sur glace, sa grande passion.
Salut ! Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires ?
Une nouvelle émotion.
Oh, désolée, les autres et moi, on voulait faire bonne impression.
Les autres, c'est qui ?
Je suis en vie.
Oh, j'adore tes cheveux.
Je sais, oui, touche pas.
Et voilà, ennui.
Ennui ?
Eh oui, l'ennui, c'est le nouveau mal du siècle.
Comment tu t'appelles, mon grand ?
Je vous présente Embarras.
Super ! Bienvenue dans le quartier cérébral, Embarras.
Nous avons une mission à accomplir. Moi, je prépare notre avenir.
L'histoire serait banale si des bouleversements émotionnels n'étaient pas en vue. Les émotions primaires voient une équipe technique modifier donc la console du centre de contrôle pour accueillir des émotions donc plus adéquates avec ce que vit Riley, dont ça n'aura échappé à personne. On voit un vilain petit bouton rouge qui apparaît sur son visage. Le bouton puberté, lui présent sur la console, à la fin de Vice Versa, va mettre ici eh bien, tous les sens en ébullition. Les nouvelles émotions qui sont accueillies pour affiner les actions à entreprendre lors de l'adolescence sont en premier lieu donc anxiété, en suractivité, le pendant de joie, ennui, avachi sur son canapé, toujours un smartphone à la main, embarras, emmitouflé dans son sweat capuche et envie plutôt adepte du superficiel.
Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous.
Tu ne peux pas te débarrasser de vous comme ça.
Nous sommes des émotions réprimées.
L'opération Nouvelle Riley commence.
Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur ?
Presque à chaque fois.
Tu n'as pas encore fait ta valise ? Riley, qu'est-ce qui se passe ?
Je suis trop répugnante pour aller au stage ! Je sortirai plus jamais de cette chambre !
Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années.
À l'intérieur de Riley, il y a du changement, donc à l'extérieur aussi. Le défi est de se faire accepter dans l'équipe de hockey, dans le même temps par la meilleure joueuse de l'équipe, qui est plutôt sympathique. Mais pour y parvenir, anxiété décrète que les anciennes émotions doivent disparaître, car il en faut de plus sophistiquées, c'est ce qu'on a entendu. C'est donc, comme dans le 1, reparti pour un voyage dans le mécanisme de l'esprit de Riley. Il y a encore quelques bonnes trouvailles. Dans le 1, il y avait la fabrication des rêves. Ici, c'est la salle des projections où des centaines de dessinateurs doivent élaborer les pires scénarios qui pourraient arriver. On trouve une chambre forte des souvenirs refoulés ainsi qu'un fleuve de courants de pensée. La créativité de Pixar est encore là, même si d'un point de vue scénaristique, les auteurs se calquent un peu sur le 1 où joie et tristesse étaient donc en dehors de la salle de contrôle. Là, c'est toute l'équipe. Le ton est beaucoup plus léger que le 1 qui insistait sur la tristesse comme constitutive de notre histoire émotionnelle. Et nous avons là affaire à des enjeux plutôt triviaux. Se faire accepter par la meilleure joueuse de l'équipe en gommant la honte de devoir, par exemple, renier son passé. Cela dresse l'horizon social de l'adolescence où l'on voit que l'île mentale eh bien, de la famille est plus étriquée que celui de l'amitié. Ce qui manque le plus à Vice Versa 2, c'est l'esprit de nouveauté et de nuance dans la gravité. Vice Versa avait surpris, captivé même les plus petits avec ses émotions simples dont on parle à longueur de livre. Le studio n'avait pas fait l'économie de s'attaquer au tragique, à la tristesse, avec une Riley résolue à fuguer. Ici, on est bien loin de tout ça. Il semble que le scénario se soit aseptisé. Alors, il n'empêche que Riley vit des questionnements et que la mise en scène parvient toujours à nous faire entendre les enjeux d'une action ou d'une autre. Ce souci de la clarté est à mettre vraiment au crédit de Pixar qui ménage aussi de nombreux moments purement drôlatiques puisés dans la culture pop. Si Vice Versa était conseillé aux enfants de 6 ans, j'estime que celui-ci, avec ses nouvelles émotions, se complexifie un peu. Peut-être faut-il attendre encore un tout petit peu. En tout cas, Vice Versa 2 est en salle depuis le 19 juin. Où en êtes-vous, Léo Scarax ? C'est la question qu'on avait posée au réalisateur. Et puis lui, il a répondu par un court film, C'est pas moi.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser ?
Une toute petite chronique pour un tout petit film, sans véritable trame narrative classique. 40 minutes à peine d'un essai filmique du réalisateur français adulé, à l'univers onirique et percutant, Léo Scarax. J'ai eu l'occasion de voir ce moyen-métrage à Cannes le mois dernier, où Scarax est un habitué. Il y recevait notamment le prix de la mise en scène pour Annette en 2021. Là, C'est pas moi figurait dans la sélection Cannes première. Je l'ai vu entre deux films au sujet plutôt lourd et c'est vrai que de cette manière, Scarax m'a ainsi offert une trêve réflexive avec un objet cinématographique curieux, mélancolique et amusant à la fois. Le Le film était une commande du Centre Pompidou hein, pour une exposition qui n'a finalement pas vu le jour, mais pour laquelle l'institution muséale a posé la question suivante au réalisateur : où en êtes-vous, Léos Carax ? Pour y répondre, ce dernier s'est adonné à une réflexion visuelle et conceptuelle immersive, une sorte d'introspection dans ce qui le constitue à cœur : sa vie, ses obsessions, sa filmographie, ses inspirations, ses angoisses aussi. Il s'agit vraiment d'un film de montage, d'une densité époustouflante. Carax nous fait sauter de film en film par bribes, puis d'archive en archive avec beaucoup de cuts et de transitions, souvent sous forme d'intertitres hein, qui sont autant de cartons références pour son public que de jeux de mots, boutades mi-cyniques, mi-joyeuses qui décrocheront des sourires au plus grand nombre. Un sacré bordel artisanal qui rappelle évidemment la patte de la nouvelle vague et la relation très forte hein, qu'entretient le réalisateur au film de Godard. Ici, on ressent nettement cette influence avec ce côté expérimental et explosif, aussi au travers de cette facétie avec laquelle il se joue des conventions cinématographiques et des spectateurs. Tout ceci est sublimé par une impressionnante bande-son et de très belles séquences travaillées avec Caroline Champetier, hein, sa directrice de la photographie depuis Tokyo, donc sur Holly Motors également, qui était à la caméra aussi du documentaire Une famille de Christine Angot cette année. Et l'actrice russe Ekaterina Yuspina. Carax tisse dans ce film peu à peu son identité personnelle, hein, du fil de la grande histoire, celle qui compose son époque, entre guerre, dictateur et ravage de l'extrême droite, et puis l'espoir, les fémènes, David Bowie. Son époque, c'est la nôtre aussi. Et il y a quelque chose de très puissant dans la manière dont il peint, à partir de son expérience unique et de son individualité, une toile commune, au final, universelle.
Ce film de Carax est en salle depuis le 12 juin déjà. C'est pas moi, nous donne l'occasion de jouer avec la filmographie de Léos Carax, qui n'est pas une filmographie très vaste, hein, puisqu'il n'y a que 6 films en 40 ans de carrière. Donc ce n'est pas beaucoup. Et sachant qu'il y avait une comédie musicale où il chante quasiment tout le film, donc je ne l'ai même pas mise dans le blind test. Hein. Donc voilà, ce sont vraiment 5 extraits, 5 longs métrages de Léos Carax qui ne sont pas dans l'ordre, évidemment.
Elle a tout pris, toutes ses affaires. Elle voulait même emporter les lettres que je lui avais écrites. Moi, je disais non, elles sont à moi. Elles sont de moi, elles sont à moi. Finalement, je l'ai laissé faire. De toute façon, ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, j'ai toutes les photocopies.
Bah, ça n'a pas été trouvé.
J'hésite parce que mes souvenirs sont lointains de voilà, le premier film de Carax. J'hésite entre Boys Meet Girl et Mauvais Sang.
Non, c'est Boys Meet Girl, oui. Le son est vraiment très lointain. C'est par là que tout a commencé. D'abord, Denis Lavant, acteur emblématique de Léos Carax, qui interprète Alex espionnant les amoureux la nuit. Et un soir de détresse, il rencontre une femme, Mireille Perrier, qui lui ressemble, mais leur coup de foudre s'achève tragiquement. Il y a toujours du tragique chez Carax. Prix de la jeunesse au Festival de Cannes 84. Deuxième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Léos Carax.
Qu'est-ce que vous me voulez ?
Rien. J'aime votre travail, vous le savez. Mais certains d'entre nous...
Mais de qui parlez-vous, enfin, merde !
Laissez-moi poser les questions. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar ?
Je continue comme j'ai commencé. Pour la beauté du geste.
La beauté. On dit qu'elle est dans l'œil. Dans l'œil de celui qui regarde.
Alors si personne ne regarde plus...
Merveilleux.
C'est Holly Motors.
Oui, Holly Motors sorti en 2012, qui était en compétition à Cannes. De l'aube à la nuit, quelques heures dans l'existence de Monsieur Oscar, un être qui voyage de vie en vie, mené par une grande limousine, tour à tour grand patron, meurtrier, mendiante, créature monstrueuse, père de famille. À chaque rendez-vous, il y en aura 8. Monsieur Oscar semble jouer des rôles, mais sans qu'on aperçoive les caméras. C'est avec Denis Lavant, 131 000 entrées en France. Troisième extrait de ce blind test.
Tu fais attention avec la moto de ton père.
À elle ou à moi ?
À vous deux. Il y tenait tellement. Vous êtes très beau aujourd'hui, mon frère. C'est l'amour. Je vous aime.
Oui, mais si j'étais né difforme...
Non, arrête. Arrête. Non, arrête. Arrête.
Ça a été trouvé ou pas ? Lundi, c'est Catherine Deneuve, qui n'a joué qu'une fois, me semble-t-il. Oui, c'est sûr, même elle a joué qu'une fois dans un film de Carax, film de 99, avec Katerina Golubeva et Guillaume Depardieu, qu'on entend aussi ici. Il s'agit de Paula X.
Je cherchais le titre et je voyais l'affiche que je confondais dans ma tête avec celle de Romance, allez savoir pourquoi, de Catherine Breillat, qui est sortie à peu près la même période d'ailleurs. Et voilà.
Mais ça n'a aucun rapport, hein. C'est une adaptation actualisée du roman Pierre ou les ambiguïtés, écrit par Herman Melville. 103 000 entrées en France, on ne peut pas dire que...
Déplace les foules,
c'est malheureux. Quatrième extrait de ce blind test.
Lise, ma petite Lise, je pars. D'abord à la mer et puis on verra. Parce qu'il y a des moments où rien ne peut être changé sans quoi tout change. Des moments où rien ne peut être dénoué de nous sans quoi tout est dénoué. C'est comme un crime, je sais. Je suis le tueur. T'es mon arme encore tiède, abandonnée. Non, oubliée sur le lieu du crime. Et j'espère surtout que mes empreintes sur toi s'effaceront. Je sais que ta jeunesse préservera ton étonnement renouvelé de pas comprendre. Et c'est bien. Je prends le large. Lise, compte pas sur le temps qui passe. Bouge vite. Oublie-moi à toute vitesse. Couche avec des garçons et des hommes. Je me souviens du tout premier dessin que tu m'avais envoyé. Un des plus beaux. Avec cette phrase dessous. Quand une fille écarte les jambes, ce ne sont que des secrets qui s'envolent comme des papillons. Mais sois prudente. Pas d'amour sans préservatif.
Merveilleux, encore une fois trouvé.
C'est un de ses chefs-d'œuvre absolus, c'est mauvais sang.
Ouais. Avec Michel Piccoli, Juliette Binoche et Denis Lavant, qu'on entend encore une fois, un des premiers films traitant métaphoriquement du sida. Sous l'accablante chaleur dégagée par la comète de Halley, la population parisienne est frappée par un virus tuant ceux qui font l'amour sans s'aimer, baptisé le STBO. Dès lors, deux bandes rivales vont se disputer le germe de ce virus qui devrait permettre de créer un vaccin et sauver la population. Et c'est Alex qui devrait faire le coup. Il vient de quitter Lise et est charmé par Anna, interprétée par Juliette Binoche, qui représente un amour impossible.
Un amour moderne. Un amour moderne.
Ah oui, la fameuse séquence avec David Bowie. 504 000 entrées en France pour ce film. Dernier extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Léos Carax.
C'est étrange de te voir. T'es comme dans mes... Je pensais t'avoir oublié. Enfin... Mais depuis des semaines, toutes les nuits presque... J'ai des images de toi. C'est pour ça que je suis ici. Ce sont les rêves qui m'envoient. Les gens qui sont dans nos rêves la nuit, il faudrait toujours les appeler le matin au réveil. La vie serait plus simple. Allô, j'ai rêvé de toi. L'amour m'a réveillée.
Alors, il en restait qu'un, c'était facile.
Certes, mais toi, ton préféré, c'est Mauvais Sang. Moi, c'est vraiment celui-là, c'est Les Amants du Pont Neuf.
Avec Juliette Binoche et encore Denis Lavant. Alex vit à Paris sur le Pont Neuf auprès de Hans, son vieux compagnon qui l'aide à trouver le sommeil. Leur vie tranquille est perturbée par l'arrivée de Michel, Juliette Binoche. Michel perd la vue, Alex découvre l'amour. Ensemble, ils vivent, rient, boivent, dansent au rythme des orchestres parisiens et sous les lumières des commémorations du bicentenaire de la Révolution française. Bon, ça a été la descente aux enfers pour ce film qui a été tourné en je ne sais combien d'années, peut-être 3 ans.
Oui, explosion du budget,
reconstruction.
De Montpellier.
Oui, voilà. Et ça a coûté très cher et ça a fatigué tout le monde. 867 000 entrées en France quand même pour ce film. Puisque nous n'avons pas mis à net le dernier long métrage de Léos Carax dans ce blind test, on écoute un des morceaux emblématiques du film sur lequel Carax s'amuse d'ailleurs à faire un faux raccord.
We love each other so much. Each other so much. We're scoffing at logic. This wasn't the plan. We love each other so much.
We love each other.
Le cinéaste Ron Howard revient sur le destin et les talents du créateur de Kermit la Grenouille, le marionnettiste Jim Henson.
This
is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Il est sûr que dans notre époque de création très majoritairement numérique, qui plus est complètement bouleversée par l'arrivée de l'intelligence artificielle, il est difficile de s'imaginer qu'il fut un temps où le monde entier fut enthousiasmé par de simples marionnettes en tissu et que ces simples marionnettes symbolisaient l'apothéose de la réussite artistique et populaire. Alors, passer dans une émission comme celle des Muppets, c'était l'assurance d'avoir un incroyable public et surtout d'avoir réussi, d'être culturellement influent et important. Si cette époque peut paraître bien lointaine, il est une chose qui, elle, n'a pas changé. Ce n'était pas de simples marionnettes, c'était les enfants d'un créateur de génie, d'un visionnaire du nom de Jim Henson et qui, au-delà d'avoir révolutionné le monde du divertissement pour la jeunesse, était avant tout un artiste singulier avec une vision magique du monde.
Why there are so many songs about rainbows and what's on the other side.
From a very early age, he had the feeling that he was here for a purpose.
Jim Henson, l'homme aux mille idées, et la traduction de Jim Henson, Idea Man. Donc j'avoue aimer particulièrement ce titre français, car même s'il semble être un petit peu passe-partout, il fait penser au héros aux mille et un visages de Joseph Campbell, ce schéma qui nous explique comment les mythes se réinventent tout en ayant invariablement la même structure. Jim Henson, c'est un peu la même chose. C'est l'homme qui fit du neuf avec un art ancestral, qui a su émerveiller les enfants de la terre entière avec l'un des plus vieux divertissements au monde. Ce titre est aussi proche de celui que l'on donnait à Lon Chaney, l'homme aux mille visages, l'ancêtre de tous les maquilleurs d'effets spéciaux du cinéma et artiste qui inventait sans cesse de nouveaux personnages en les incarnant. Henson, c'était ça, un gentil géant qui se fondait dans le décor pour s'incarner dans ses créations. Ce documentaire réalisé par Ron Howard nous montre la trajectoire et le travail de l'artiste révolutionnaire et visionnaire connu principalement pour les Muppets mais aussi pour les sublimes films Dark Crystal et Labyrinthe. Avec une grande variété d'entretiens, de documents d'archives pour certains totalement inédits et la grande admiration de son propre réalisateur, Ron Howard donc, le film nous fournit des informations qui vont bien au-delà de la création de Kermit la Grenouille et de son groupe d'amis à fourrure. C'est un voyage à travers la motivation, le travail acharné, la persévérance et le talent d'un personnage parfois torturé mais toujours optimiste qui, avec sa femme et son équipe, a toujours cherché à surprendre, innover et changer les possibilités offertes par la télévision. Et oui, d'où le terme de visionnaire employé plus tôt, car il a bien fallu imposer cette nouvelle forme de spectacle. Le documentaire nous ramène au début de la vie de Jim dans le Mississippi, de la perte tragique de son grand frère dans un accident de voiture à la création de Kermit à partir du manteau de sa mère. Le tout nous est raconté par de nombreux amis et membres de la famille, des gens comme Frank Oz ou son fils Brian Henson qui décrivent comment il travaillait sa vie de père, deux choses difficilement compatibles, mais qui va quand même réussir à sa façon. Nous pouvons nous délecter de nombreuses images de coulisses de lui interprétant les Muppets de Sesame Street, le Muppet Show et ses deux paris fous que furent Dark Crystal et Labyrinthe au cinéma, moyennement couronnés de succès à l'époque, mais vite devenus totalement cultes. Jim Henson était sur le point de vendre son entreprise à Disney lorsqu'il mourut tragiquement à 53 ans en 90 d'une pneumonie bactérienne. Si on peut lui reprocher parfois le ton sirupeux de ses films, il était difficile de penser à quelqu'un d'autre que Ron Howard pour faire le portrait sensible d'un artiste aussi sensible que lui. Il fait du très bon travail avec le documentaire en nous montrant les images rarement vues, ce qui rend bien sûr indispensable la vision de ce film. Jim Henson est sans aucun doute un pilier de la créativité optimiste et de l'attitude artistique positive de ces dernières années et son héritage est indélébile. Il est également toujours une source d'admiration et d'inspiration dans un monde où tout semble déjà défini et tous les souvenirs qu'il a créés pèsent plus lourd que sa tragique perte. Alors comme il l'a dit lui-même, je serai juste dans un autre avion. Sa créativité illimitée nous amène à nous demander quelles inventions merveilleuses nous aurions pu avoir aujourd'hui s'il n'avait pas été retiré de ce monde si tôt et achève de transformer la projection de ce film en montagne russe d'émotions pour tous ses fans. C'est un sentiment d'amour, de joie omniprésent dans l'œuvre et dans la vie de Henson qui s'infiltre bien dans le film Howard, reproduisant simplement la culture de l'anarchie affectueuse, comme le dit Frank Oz, que Henson aimait promouvoir. Alors la vue légèrement insensée de Big Bird chantant « It's not easy being green », donc ce n'est pas facile d'être vert, lors des funérailles de Henson vous laissera, si vous avez effectivement un pouls, des larmes de joie, ce genre de larmes que seuls les Muppets pouvaient générer. Car cette chanson, au-delà de sa beauté simple, symbolisait toute la force d'Henson à éduquer les enfants à des problèmes graves de société, comme la différence ou le racisme ici, sans jamais le marteler, mais en le dissimulant dans des chansons et mises en scène délicates. Merci donc à Ron Howard, et surtout, merci à toi, Jim.
Ce documentaire est à voir sur la plateforme Disney+.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine et on a puisé encore des films à Cannes.
Oui, le dernier Lanthimos, Kinds of Kindness.
Et puis moi j'ai vu Le Comte de Monte Cristo et puis Les Pistolets en Plastique, film délirant. Et quant à toi, Guillaume ?
Eh bien moi j'associerai deux contraires, on va parler du moine et du fusil.
À la semaine prochaine.